sur 103,5.
Le monde entier célèbre le 4 février de chaque année, la journée mondiale contre le cancer. C'est donc aujourd'hui, raison pour laquelle nous en parlons dans cette émission. Vous savez que le cancer est une maladie qui tue des milliers de personnes. Mais nous, vous avez été sur le terrain, vous avez interrogé quelques personnes que vous avez rencontrées dans les rues. Alors comment se présente la situation en République démocratique du Congo?
En fait, Nicole, en RDC, comme partout dans le monde, le cancer tue chaque jour. L'OMS estime que cette maladie constitue la première cause de mortalité dans le monde et que le cancer aurait fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. Mais il faut savoir qu'en RDC, il n'y a pas de données organisées sur les statistiques de cancer. Le ministère de la Santé ne met pas à jour les statistiques. Mais tout ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que le 4 février de l'année dernière, les médecins qui s'étaient réunis au centre Kimbangis avaient déclaré que 44% des causes de décès dans certains hôpitaux sont dues au cancer.
Quelles sont finalement les causes majeures de cette maladie? Est-ce que les médecins, les spécialistes que vous avez rencontrés vous l'ont dit?
Oui, Nicole, mais avant de parler des causes de cette maladie, il faut d'abord expliquer de manière très simple cette maladie qui n'est pas très bien connue de beaucoup de gens. En fait, lorsqu'on vous dit que vous avez le cancer, cela veut dire que vos cellules, les cellules de votre corps, se multiplient anormalement. Au lieu de, par exemple, que vous ayez 500 cellules, vous en aurez, par exemple, 5000 ou 50000. D'après les cancérologues, le cancer n'a pas d'agent causal. Cependant, plusieurs facteurs peuvent favoriser cette maladie, notamment l'hérédité, la pollution et l'usage du tabac, comme le souligne le docteur Chamala, médecin directeur à la clinique Ngalima.
Les causes du cancer sont multiples. On parle d'abord de l'hérédité chez certaines personnes. Il y a des familles où on fait les cancers de génération à génération. Alors, il y a des causes virales. Certains virus, tels que le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et d'autres virus peu connus, sont capables d'être à la base. Et puis, il y a l'environnement. L'environnement peut être aussi être à la base du virus, par exemple les rayonnements de certains centres nucléaires, etc. Il y a même certaines bactéries. Le plus connu, c'est l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qu'on retrouve beaucoup dans la population des pays en voie de développement, qui peut être une des causes des cancers de l'estomac chez certaines personnes.
Oui, justement, en comprenant un peu ce que le docteur Chamala vient de nous dire, on se rend compte que finalement, compte tenu de l'environnement qui est pollué, nous, on est tous appelés un jour, peut-être, à contracter le cancer.
Bien sûr, Nicole, il faut soigner l'environnement, sinon ça risquerait un jour de favoriser, c'est un des facteurs qui favorise cette maladie.
Alors, quels sont finalement les différents types de cancers connus par les Congolais? Est-ce qu'ils sont au moins au courant de cette maladie?
Bon, dans notre pays, les femmes d'abord souffrent du cancer de sein, beaucoup de femmes, et du cancer de l'utérus. D'après les explications des gynécologues, il y a deux types de cancers de l'utérus. Il y a le cancer du col de l'utérus et le cancer du corps de l'utérus, Nicole. Le cancer du col touche plus les jeunes filles et le cancer du corps, lui, touche les femmes en âge très avancé. Il faut souligner que des milliers de personnes souffrent aussi de la leucémie, qui est le cancer du sang, du cancer de la peau, du cancer des poumons, du cancer de la gorge, du cancer de la colonne vertébrale. Bref, presque tous les organes du corps humain peuvent être touchés par le cancer.
Cette année, nous savons que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a lancé un message disant, je cite, « La fumée passive est un danger pour votre santé et celle de votre famille. » Peut-être que l'OMS s'est rendu finalement compte que la population congolaise était vraiment exposée. Alors comment ce message est perçu par la population congolaise?
Bien, Nicole, d'abord, il faut savoir que la fumée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pollue notre environnement et la fumée, dans bien des cas, est causée par l'homme. Les véhicules, les industries, les cigarettes dégagent des fumées qui ont des effets nocifs sur notre santé. Voilà pourquoi l'OMS tient à sensibiliser tout le monde sur le danger de cette maladie. Mais apparemment, la population est un peu ignorante. Les fumeurs de cigarettes, par exemple, eux ne sont pas très convaincus qu'à la longue, ils peuvent attraper le cancer, suivant leurs propos.
Mais là, moi, parce que,
parce que ça me fait quand même du bien.
Oui, on a l'impression que la plupart des gens, les fumeurs en tout cas, banalisent cette maladie. Ouais. On peut croire qu'ils sont plus ou moins inconscients. On peut croire ça.
On peut croire, Nicole, ou peut-être qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils ne connaissent pas les dangers de la fumée.
Pour rappeler à tous ceux qui souhaitent intervenir, qui peuvent nous appeler afin de témoigner, de participer à cette émission au 081 070 2050. Si vous souhaitez participer directement, vous pouvez composer ce numéro, le 081 890 6394. Pour rappeler à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, que nous recevons le docteur Manko et Banjoki, et nous avons également notre question BIA est finie. On va d'abord, pour commencer, donner la parole au docteur Manko Ibadjoki en tant que cancérologue à l'hôpital général de Kinshasa. Docteur Manko, je m'adresse directement à vous parce que vous avez suivi les réactions de toutes ces personnes, de ces fumeurs notamment, qui semblent être inconscients. Vous, en tant que cancérologue, je pense que vous avez régulièrement des cas de malades à l'hôpital général de Kinshasa.
Effectivement, nous avons beaucoup de malades. Je peux dire que par semaine, nous recevons au moins 3 à 5 cas de cancer. En suivant les auditeurs ou les intervenants là, je me suis rendu compte que non, ils ne sont pas tout à fait inconscients. Ils connaissent, mais ils doutent. Ils doutent pourquoi, vous savez, la plupart peuvent se rendre compte de la gravité du cancer que quand ils ont un membre de famille qui souffre de ça ou un ami plus proche qui souffre de ça.
Oui, mais on dit souvent que les fumeurs sont exposés au cancer. Est-ce que vous avez des cas de fumeurs qui sont en fait qui ont attrapé le cancer?
Oui, nous avons eu des cas de fumeurs qui ont attrapé le cancer, pas tout à fait nombreux, mais plus proches, parce que nous avions même eu deux médecins dans ces mêmes conditions-là. Malheureusement, les deux cancers sont déjà morts. Mais ce que nous devons dire, c'est une prédisposition, parce que beaucoup disent que nous avions vu des vieux qui ont fumé pendant longtemps et qui n'ont jamais...
Oui, il y en a beaucoup.
Oui, pourquoi? Parce que, en fait, l'étiologie du cancer n'est pas très bien connue, mais on l'explique par la biologie moléculaire. Ce sont en réalité les gens qui sont prédisposés à faire un cancer. Donc, on trouve les éléments dans les allèles, les chaînes de chromosomes, dans les recherches.
Oui, je ne vais pas être trop scientifique,
oui,
mais on peut dire
c'est
que...
Il faut dire que oui. S'il y a deux personnes qui fument la même quantité de cigarettes, celui qui est prédisposé à faire le cancer en fera. Mais l'autre n'en fera pas parce qu'il n'est pas prédisposé.
Donc on peut croire que c'est plus une maladie héréditaire.
Plus c'est l'hérédité, parce que les chromosomes, nous les héritons de nos parents.
Oui, on va poursuivre avec vous dans un instant, Nounou, docteur Manko et Nounou, justement à propos des personnes qui ont attrapé le cancer, des personnes qui sont beaucoup plus propices à la maladie. Est-ce que vous avez pu mettre la main sur un des malades qui a accepté de témoigner à votre micro?
Mais quand nous avons vu plusieurs malades qui souffrent du cancer dans plusieurs hôpitaux de la place, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu s'exprimer à notre micro. il faut reconnaître que leur état était quand même assez critique, hein. Néanmoins, je vous convie d'écouter le témoignage de cette demoiselle qui explique comment sa mère est décédée malgré tous les soins restés.
Oui, j'ai déjà vécu cet cas. Ma propre mère qui avait un cancer de sein.
Comment elle a su qu'elle avait le cancer de sein?
Au départ, elle ne savait pas. Elle avait une sorte de boule à son sein gauche. Et elle s'inquiétait parce que au fur et à mesure, ça durcissait. Et alors, ça l'inquiétait un peu. Pour elle, c'était un kyste. Et un beau jour, elle s'est décidée d'aller voir un médecin. Elle a consulté le médecin et le médecin lui dira que non, madame, on va opérer. Ça doit être sûrement un kyste. Et le médecin l'a retenu, on l'a opéré. À la grande surprise du médecin, quand on l'a enlevé, ce kyste-là, ça avait vraiment une très grande épaisseur et ce kyste avait des racines. Et le médecin avait demandé qu'on puisse faire des analyses par rapport à ce kyste. Et quand on a fait des analyses, on a découvert en fait que c'était une tumeur. Alors on devait maintenant savoir si ça avait déjà fait un métastase. Mais malheureusement, là c'était en 1988. Le Zaïre n'avait pas encore tous les appareils appropriés pour faire ce genre d'examen. C'est alors qu'elle a décidé d'aller en Europe, où elle est allée faire ses examens. Effectivement, on a vraiment confirmé que c'était un cancer. On l'a opéré et on a carrément coupé son sein gauche.
Oui, donc c'est terrible, hein, on en arrivait là, finalement, qu'on soit obligé de couper votre sein parce que vous avez le cancer de sein.
Oui, Nicole, on arrive à couper le sein quand on voit que l'organe est vraiment très touché. Donc, et dans bien des cas, on se rend compte toujours en retard.
Est-ce qu'en République démocratique du Congo, on est en mesure de faire ce genre d'opération? On aura l'occasion de poser la question tout à l'heure, dans un instant d'ailleurs, avec le docteur Mankoy. Mais nous retenons une chose, c'est que de plus en plus, les femmes souffrent du cancer de sein. Est-ce que vous avez abordé cette question avec un gynécologue?
Oui, Nicole, il faut savoir que pour ce qui concerne les femmes, on découvre souvent en retard qu'elles ont le cancer, parce que beaucoup de jeunes filles et des femmes ne vont jamais en visite de routine chez les gynécologues. Ici chez nous, on voit un gynécologue, soit parce qu'on est en famille, soit lorsqu'on a une infection. Il n'y a pas que le cancer de sein chez les femmes, il y a aussi celui de l'utérus. Nous avons discuté longuement avec le docteur Betou, gynécologue obstétricien. Ils nous ont dit plus.
En ce qui concerne le cancer du sein, la cause n'est pas connue. Comme chez nous en Afrique ici, il y a des facteurs génétiques, il y a d'autres facteurs d'environnement. Il y a plusieurs autres facteurs. Il y a des antécédents qui, lorsque dans une famille, il y a un cancer du sein, une maman qui a un cancer du sein, s'aligner, les filles ont beaucoup plus de chances, les risques sont beaucoup plus élevés pour faire le cancer du sein. Par contre, les études ont montré, en ce qui concerne le cancer du col, qu'il y a le papillomavirus humain, et vous savez, le papillomavirus, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, on a constaté chez les femmes, entre guillemets, libres, prostituées, qu'il y avait beaucoup de cas de cancer du col, parce que un des facteurs favorisants, c'est la multiplicité des partenaires.
Mais pourquoi, dans bien des cas, les cancers sont toujours décelés en retard?
Tout simplement parce que les dames, les mamans ou les femmes consultent en retard. Prenons par exemple le cancer du sein. Généralement, les femmes, par exemple ici en Afrique, n'ont pas l'habitude de s'auto-examiner. Il est recommandé aux femmes d'examiner les seins. C'est mirer dans un miroir, regarder le volume des seins, la couleur des seins, la symétrie ou quoi, de face comme de profil.
Combien de femmes ont l'occasion de s'examiner devant le miroir?
Combien de femmes le savent d'abord?
Oui, mais c'est une question quand même à mille inconnues, parce que j'imagine que la plupart des femmes sont occupées à aller chercher peut-être comment nourrir leur famille, que de passer beaucoup de temps devant le miroir pour se mirer, hein, je pense. Non.
Oui, Nicole, il faut d'abord que les femmes sachent qu'il faut faire cet exercice tous les jours, c'est pas le problème.
Oui. Alors, est-ce que toutes les personnes qui souffrent du cancer finissent par mourir?
Non, Nicole, lorsque le cancer est décelé très tôt, le pire peut être évité. La maladie est donc guérissable lorsqu'elle est détectée à un stade précoce. Mais lorsqu'on découvre la maladie en retard, c'est fatal, comme le confirme ce monsieur qui avait un cancer, mais ce cancer avait été découvert très tôt.
Moi, si vous parlez, j'ai été opéré d'un cancer. J'étais très jeune, j'avais 26 ans. J'ai été opéré d'un cancer de gencive. Je ne savais rien et j'étais surpris. Lors d'un check-up médical en Europe, le médecin m'a dit que j'avais une tumeur et qu'on devait intervenir dans les 4 mois. J'étais surpris. Et si c'était affiché à ça, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais maigrir. On allait dire non, c'est le sida alors que c'est un cancer. Souvent, on confond cancer et sida. Chez nous, les gens meurent du cancer par ignorance. Ignorance des patients et des fois même ignorance des médecins.
Oui, des fois même l'ignorance des médecins, parce qu'il faut le reconnaître, on a deux médecins dans ce studio, parfois il y a un mauvais diagnostic, hein, ça peut arriver.
Tout à fait.
Et la mort peut carrément arriver.
Oui, entre-temps, la maladie n'attend pas. Quand il y a un mauvais diagnostic, le cancer, les cellules se multiplient et c'est bien grave.
Une question qu'on va poser dans un instant au docteur Mankoy et au docteur Christian Léa, on vous la pose, non, parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer les médecins, peut-être qu'ils ont eu la même idée. Alors, quel est le mode de traitement du cancer? Est-ce qu'on est en mesure de traiter le cancer en République démocratique du Congo?
Bien sûr, Nicole, nous avons discuté avec plusieurs médecins sur le mode de traitement du cancer. Tout ce monde dit, tout dépend du stade et du type de cancer. Quand c'est décelé avant, comme je l'ai dit, on peut enlever l'organe malade. Il y a aussi la chimiothérapie et la radiothérapie. Nos invités sont
pour
apporter une autre précision sur cette question.
Merci beaucoup, Maman, pour toutes ces précisions. Une fois de plus, auditeurs de Radiothérapie, nous vous invitons à participer au Capi Action en réagissant au 081-890-63-94. Appelez-nous donc. Si vous n'avez pas suffisamment d'unité, envoyez-nous un SMS au 081-070-2050.
Pour écouter aujourd'hui la musique d'hier, associer nos oreilles de l'histoire de la musique, revivre des grands moments de la chanson congolaise, retrouver nos héros et chanter avec eux, ouvrons le bal avec la musique des années 50, 60, 70 et 80. Tous les dimanches, de 19h à minuit, en Kinshasa, et de 20h à 1h, heure de l'Est. Tous les lundis et mardis de 21h à minuit, heure de Kinshasa, et de 22h à 1h, heure de l'Est. Au Capi Rétro sur Radio Capi, avec DJ Dali, changez de rythme.
Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. Au Capi Action, on parle afin de vous informer sur ces réalités. Nous avons dans ce studio deux médecins, le docteur Christian Béhépini en tant que coordonnateur des maladies non transmissibles. Au ministère de la Santé, nous avons également le docteur Mankoy Badjoki en tant que cancérologue à l'hôpital général de Kinshasa. Docteur Christian Béhépini, je commence par vous parce que nous nous rendons compte que de plus en plus, le cancer est une réalité en République démocratique du Congo. Il y a de plus en plus de malades, de personnes qui en souffrent. Alors, au niveau du ministère de la Santé, est-ce que vous avez pensé peut-être vous organiser à cet effet? Parce que nous savons que soigner cette maladie coûte cher. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez eu à prendre au niveau du ministère de la Santé?
Merci, madame. C'est-à-dire, au niveau du ministère de la Santé, on est conscient de la situation. Le cancer, c'est une réalité dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, depuis 2003, le ministère de la Santé a mis sur pied un programme national de lutte contre le cancer. Mais malheureusement, bon, ce programme n'a pas pu marcher correctement et pourtant il avait comme mission, c'était justement d'intégrer les activités de lutte dans le système national de santé, hein, d'élaborer des plans d'action budgétisés pour pouvoir mobiliser les ressources pour la lutte, coordonner un peu le partenaire impliqué dans la lutte, mobiliser les ressources humaines et surtout renforcer les capacités des acteurs et des institutions dans la définition des stratégies de prévention.
Oui, on retient que ce programme avait plusieurs avantages.
Oui.
Mais une question, pourquoi ce programme n'a pas évolué? C'était un problème de fond?
Bon, un problème de mobilisation des ressources, hein, et des acteurs qui n'ont pas été très très actifs.
Oui, qu'est-ce que vous entendez par ressources? C'était plus les ressources financières.
Les ressources financières, entre autres.
Donc, on n'a pas été en mesure de vous appuyer financièrement. Il fallait des millions pour ça.
Non, au niveau de ce programme, disons, les acteurs n'ont pas été très, très actifs. Hein, mais est-il que pour le moment, au niveau de la division de maladies non transmissibles, on a pu produire depuis octobre une politique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles qui prend en compte la lutte contre le cancer. Et aussi, on a pu produire un plan stratégique de 5 ans. Un plan stratégique de lutte contre les maladies non transmissibles.
On a l'impression qu'on reste plus dans les discussions, on reste plus dans les discours en fait. Mais concrètement, on ne réagit pas. Vous avez suivi tout à l'heure le point que nous a fait les membres à ce sujet. Il y a de plus en plus de gens qui en souffrent. Il y a même des gens qui sont sous-informés. C'est tout de même important de sensibiliser les gens. Comment expliquer qu'il y a un programme contre la maladie du sommeil, il y a un programme contre, on en a parlé hier, la malaria. Il n'y a pas de programme contre le cancer. Écoutons, on devrait informer la population, on devrait même soutenir la population congolaise, puisqu'ailleurs ça se fait.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, au niveau de le programme, comme je le dis, ça n'a pas pu marcher, mais est-il qu'au niveau de la division, on a pu récupérer la situation, hein, c'est comme ça qu'on a produit cette politique de lutte, et avec le plan stratégique qui reprend tous ces aspects de sensibilisation et de lutte. Donc, ce qu'il faut vous dire, il faut surtout sensibiliser les gens à pouvoir éviter les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont connus, on a suivi les différents facteurs de risque dans les différentes interventions.
Oui, mais ce qui intéresse plus la population, c'est de savoir si aujourd'hui le ministère de la Santé est en mesure d'assister gratuitement la population congolaise. Parce que, docteur Mankoy, là je m'adresse directement à vous parce que nous savons que vous avez plusieurs cas de cancer à l'hôpital général de Kinshasa en tant que cancérologue. Et je pense que ça, c'est pas peu de choses, ça coûte cher hein, pour se faire soigner.
Effectivement, le grand du problème, comme docteur Béa vient de le dire, il y a des têtes pour réfléchir, concevoir le plan de vulgarisation, concevoir le plan de traitement. Il y a des gens pour traiter les cancers. La population, notre population, vous le savez très bien, n'est pas en mesure de supporter le traitement, par exemple, d'une chimiothérapie. Et surtout, parce que le premier traitement, si nous découvrons les cancers à un stade précoce, le traitement, c'est la chirurgie. Mais les interventions aussi coûtent cher. Mais au niveau de la nation, au niveau de l'homme politique, ils n'ont jamais pris la décision pour financer ces programmes.
La faute à qui? Peut-être que vous n'avez pas suffisamment fait d'efforts pour arriver à convaincre les personnes en question, là, le ministère de la Santé ici, qu'il fallait soutenir ce programme.
J'espère que le docteur vient de le dire, parce qu'ils ont soumis tous ces programmes-là à l'homme politique qui doit maintenant défendre ça au niveau du gouvernement pour qu'on en fasse un problème de santé publique important.
Oui.
Vous parlez du sida. Le sida, c'est un programme qui est financé au niveau de l'OMS, au niveau des partenaires internationaux. Mais le cancer, ce n'est pas le cas. Pourtant, il est très difficile pour un Congolais moyen de se prendre en charge pour les traitements d'une chimiothérapie par exemple.
Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent en ce moment et qui s'intéressent de la même manière que nous. On a d'ailleurs un auditeur au bout du fil qui réagit directement, on va le prendre. Mm-hmm. Allô, bonjour monsieur.
Oui, allô, bonjour.
Oui, commencez par vous présenter. Nous savons que vous nous suivez depuis Guadeloupe. Quel est votre nom et quelle est votre question?
Ok, je m'appelle Didier Abio, je suis à Bado. J'avais voulu savoir, à part les cigarettes, qui est à la base aussi de causer les cancers, qu'est-ce qui peut aussi causer les cancers à part les cigarettes?
Oui, merci d'avoir réagi aujourd'hui, monsieur, depuis Guadeloupe. Alors, docteur Mankoy, vous avez suivi la question, quelle est votre réponse?
Oui, je dirais à notre compatriote, il n'y a pas que les cigarettes, il y a l'alcool. Surtout à Guadeloupe, vous prenez l'alcool fort. Alors, il faut éviter l'alcool, parce que quand vous faites l'association alcool-cigarette, ça vous expose plus à faire des cancers si vous êtes prédisposé à faire les cancers. Donc, il n'y a pas que la cigarette, il y a aussi l'alcool.
Oui, mais juste une question un complément d'info. On a l'impression qu'en ce moment, surtout pendant cette période, les gens sont beaucoup plus prédisposés à attraper le cancer, parce qu'on en parle de plus en plus, alors qu'avant, c'était pas le cas, c'était plus une maladie des blancs, hein, entre parenthèses.
Non, c'est pas évident, parce que je suis même un compatriote qui s'est dit qu'en 1988, il fallait qu'il soit en Europe pour qu'on sache que ce sont des métastases, non. Le cancer, les cancers, le diagnostic, le médecin qui sont formés savent poser le diagnostic. Pour chercher le métastase, on fait avec une radiographie simple du poumon ou de la colonne vertébrale, on peut voir aussi ça. Mais maintenant, pourquoi nous disons qu'il y a recrudescence? Ce n'est pas évident, c'est tout simplement parce que le moyen, les techniques, maintenant sont plus développés et ça nous permet plus facilement de poser le diagnostic.
Vous êtes suffisamment équipé maintenant l'hôpital général de Kinshasa?
Pas tout à fait seulement l'hôpital général de Kinshasa, je dirais pour la ville de Kinshasa, parce que nous avons les scanners, nous avons l'échographie, nous avons l'imagerie médicale, mais ça nous permet plus facilement de poser le diagnostic.
Docteur Mankoy, au niveau de l'hôpital général, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les statistiques?
Non, c'est très difficile.
Nous n'allons pas. Comment expliquer que c'est très difficile alors que vous avez souvent des cas? Vous pouvez.
Les statistiques, on peut les donner seulement par pardon. Je donnerai les statistiques pour la médecine interne. Là, c'est plus facile parce que je suis là. Mais il est très difficile de donner les statistiques en général. Oui. Pourquoi on vous dit qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas. Les statistiques, c'est tout simplement parce que le programme n'est pas organisé. Vous allez voir pour les Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, ils ont ce que nous appelons les registres des cancers. Et vous trouverez ça dans tous les hôpitaux. Mmh. Quand il y a un cancer, on note l'âge de la personne, les sexes, les types de cancers.
Donc, le Congo-Brazzaville est mieux organisé que
le plan oncologique, oui.
On a un médecin qui nous suit en ce moment, le docteur Michel, qui aimerait aussi donner son point de vue sur cette question. Mmh. Docteur Michel, bonjour.
Bonjour madame.
Alors, on nous a dit que vous souhaitez intervenir sur cette question concernant justement la contribution du gouvernement en ce qui concerne l'assistance à la population congolaise pour le cancer. Comment expliquer qu'aujourd'hui le gouvernement congolais semble être indifférent à cette maladie alors qu'il y a plusieurs programmes qui existent en RDC?
Oui madame, en fait, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Pour en estimer sur cette question, qui est en fait une question majeure, une question de très grande importance. Moi, personnellement, je m'occupe de la lutte contre la maladie du sommeil au niveau de la province du Kasaï occidental. C'est vrai, comme l'a dit l'intervenant tout à l'heure, lorsque le gouvernement s'engage à faire une déclaration pour éviter ou pour promulguer une politique en rapport avec la lutte contre une pathologie, cet engagement prouve la volonté du gouvernement à pouvoir mettre les moyens pour pouvoir lutter contre cette maladie. Mais le grand problème qui est là, c'est que, vu l'ampleur de plusieurs maladies qui, aujourd'hui, dissimulent nos populations, il est tout à fait évident que les directeurs ou ceux qui sont chargés de certains programmes, je prends ici pour l'exemple qui nous est donné par rapport au cancer, c'est que les directeurs devront faire un grand plaidoyer. Parce que je me rends vraiment compte que de plus en plus, la problématique du cancer est une problématique de santé publique et il faudra vite agir. Donc il faudra vraiment que ceux qui ont à charge le programme fassent un plaidoyer. En interne, ça veut dire en allant vers les décideurs politiques, en externe, en mobilisant les autres partenaires qui ne sont peut-être pas informés. Et de l'autre côté, il faudra aussi qu'on fasse un effort pour pouvoir augmenter la couverture. Si aujourd'hui à Kinshasa, il y a quelques centres de dépistage de certains cancers, je vous dis que la situation est presque nulle dans les provinces. Il faudra qu'on aille vers une amélioration de la couverture. Et troisièmement, ce que moi je proposerais, c'est de pouvoir intensifier la sensibilisation, l'éducation, l'information. La plupart des femmes décèdent dans les villages, dans les milieux ruraux en général, même ici, dans les milieux urbains en province, parce que tout simplement, on n'a pas cette information. Mmh. On ne sent pas des actions de sensibilisation qui iraient vers la population afin que cette dernière adopte un comportement favorable à éviter le cancer. Le noyau est très restreint, il n'y a pas beaucoup d'action et par rapport à ça, je pense pas qu'on puisse attendre quelque
chose. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur Michel, pour votre intervention. On va s'adresser directement à docteur Christian via FNI. Peut-être que vous avez une précision à nous donner en fonction des remarques faites par le docteur Michel.
Non, je crois qu'il a tout à fait raison. C'est ce que je vous disais qu'avec le plan stratégique, dans ce plan stratégique, prend en compte tous ces aspects. La sensibilisation, la mobilisation des ressources, le plaidoyer, au niveau des autorités, tant qu'au niveau des autorités qu'au niveau de partenaires.
Mais ça n'évolue pas.
Non, mais
c'est bloqué.
Il y a pas longtemps qu'on venait de produire ce plan stratégique, puisque c'est prévu pour 2009 jusqu'à 2013.
Donc, en fait, aujourd'hui, si on comprend bien, ce plan stratégique semble ne pas tellement évoluer parce que ce sont des fours qui vous font des fours.
Non, je vous dis, madame, on venait à peine de le produire. C'est depuis le mois d'octobre ou novembre qu'on a ce plan.
Oui.
Qu'on doit d'ailleurs faire endosser par le ministre de la Santé.
Donc, ça évolue bien.
Oui.
Selon vous, ça évolue bien.
Oui.
On aura à vérifier ça dans les mois à venir. Mais il y a plusieurs questions qui nous arrivent dans le studio.
Bien sûr, il y a plusieurs questions des auditeurs. Il y a par exemple Franck Monga qui pose la question de savoir comment traiter le cancer des seins. Parce que dans d'autres cas, on opère. Et quelles en sont les causes et comment éviter? Est-il possible d'éradiquer le cancer? Alors, docteur Mankoui.
Je peux répondre à cette question parce qu'il est un peu plus précis pour parler du cancer des seins. Les cancers des seins, on n'opère pas les cancers des seins. on utilise le cytostatique ou les médicaments qui diminuent le taux de globules blancs et qui se multiplient de façon anarchique.
Oui.
Oui.
Mais là, on arrive à soigner complètement la maladie.
Oui, oui. On arrive à soigner le cas de leucémie assez correctement, assez correctement.
Mais pas en République démocratique du Congo, il faut aller ailleurs.
Là, il faut aller ailleurs.
Pour se faire soigner, docteur, il faut le reconnaître.
Je dois vous rassurer qu'il y a des enfants qu'on a soignés avec des leucémies et qui vivent ici dans ce pays. Ils n'ont jamais été à l'étranger. Mais ce qui est évident, c'est que quand on arrive à de grands problèmes pour de grands messieurs, parce que parfois on arrive à faire ce qu'on dit la culture de la moelle. Donc on détruit ce que vous aviez et on cultive notre moelle. Et là, ça coûte énormément cher parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, ça demandait au moins 4 à 5 millions de francs belges en ces temps-là de francs belges. Donc ça demande des gens qui ont des moyens.
Bien,
donc là, cette technique ne se fait qu'à l'étranger.
Voilà, il y a une autre question de Yvette Aboukabou. Elle veut savoir quelles seraient les causes du cancer sur le plan gynécologique. Yvette Aboukabou.
Je crois qu'Yvette a suivi. Docteur Betou Isidore, le gynécologue qui a parlé. En fait, ce sont des études sur lesquelles on se base. Nous avions dit d'abord, peut-être pour le papillomavirus, c'est tout à fait évident parce que c'est un virus qui s'incruste sur le noyau de la cellule et dans la duplication et ça provoque comme le virus lui. Il a la propriété de se multiplier rapidement,
oui,
et ça provoque maintenant la multiplication anarchique. Et on vient de le dire, c'est-à-dire, on parle souvent de nombreuses naissances, ce qui n'est pas évident, parce que vous allez trouver une maman qui a peut-être fait 15 accouchements, lui n'a pas fait le cancer du corps de l'utérus, mais celle qui a fait peut-être 2 accouchements, on a fait, c'est toujours la prédisposition.
Voilà, moi, toujours, ouais. Donc, on regarde dans l'ensemble que c'est toujours la prédisposition.
C'est toujours la prédisposition.
Mais, c'est même que le docteur Bétou avait ajouté que les prostituées souffrent très souvent du cancer du col de l'utérus.
Les prostituées, parce qu'ils attrapent une maladie transmissible qui est due au papillomavirus.
Mm.
Et le papillomavirus, le gène de disque, s'incruste dans l'ADN du noyau de la cellule et dans la duplication, ça provoque cette multiplication anarchique. Mais comme ils ont plusieurs partenaires, comme ils ne se contrôlent pas.
Oui.
Et c'est ça le problème.
On prédispose.
Oui, prédisposé à faire ça.
Voilà, docteur Mankoye, notre question, rapidement, elle vient de Taïga Aïziro. Pourquoi, dans la plupart des cas, les femmes qu'on opère, qu'on enlève les seins, ne survivent plus?
Ah oui, on a vu
des cas. Dans les cas, lorsqu'on coupe les seins, par exemple, et puis elle décède
quelques jours, quelques mois après.
Oui, effectivement, je pense que quand nous recevons un néo du sein, pardon, un cancer du sein au stade 1 ou au stade 2A, le traitement est plus facile. Il y a la chimiothérapie, il y a la chirurgie et nous ajoutons la chimiothérapie. Ou au stade 1, on fait seulement la chirurgie et parfois on ne fait même pas la chimiothérapie. La personne va vivre longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois vous dire sincèrement, il y a une peur terrible. Quand une femme constate une nodule au niveau de son sein, quelle qu'elle soit, intellectuelle ou pas, elle a toujours peur de consulter un médecin.
Mais qu'est-ce que vous appelez par nodule, docteur?
C'est-à-dire,
scientifique.
La femme parle de ses seins. La femme, c'est là régulièrement. Je pense qu'entre la femme et la femme, et l'homme, la femme, c'est la personne la plus pauvre. Mais elle se lave régulièrement, elle doit palper ses seins. Elle palpe ses seins. Elle doit sentir s'il y a une boule dure, que nous appelons mal. Dès qu'elle sent ça, elle doit consulter. Mais dans la plupart des cas, la femme, dès qu'elle constate ça,
elle panique.
Elle panique, elle dit, on va m'enlever les seins. On va m'enlever les seins. Et elle se casse. Juste à ce que ça évolue. Quand ça évolue, quand nous recevons une femme au stade 3, nous faisons la chirurgie, par exemple, des propriétés, parce que parfois ça s'insère, ça sent mauvais, on fait la chirurgie des propriétés, nous faisons la chimiothérapie pour prolonger sa vie. Mais dans la plupart du temps, si ça ne marche pas, c'est dans les 18 mois que la malade meurt. Et dans le cas où ça marche bien, ouais, ça devient de malade, plus de 5 ans, plus de 10 ans.
Oui, docteur Mankoye, il y a encore d'autres questions, il y en a plusieurs. Il y a un auditeur, il s'appelle Botos, qui nous a écrit à partir de Kindu et qui pose la question de savoir, bon, c'est un constat, la plupart des médecins sont des grands fumeurs. Et quel exemple on peut suivre?
Voilà, ce qui n'est pas pour un docteur.
Oui, ça c'est évident. Hein. Il y a des médecins qui filment.
Et qui sont exposés également au cancer.
Mais au début de l'émission, j'avais dit que...
vous avez perdu
votre confrère et si proche. Hein, parce que nous avions travaillé en médecine interne et il savait les dangers. Mais le médecin, c'est aussi un homme. Hein. Il a des sentiments comme... les deux premiers auditeurs qui disaient que non, ça me donne un sentiment de bien-être, ça me donne un peu de force pour parler.
Et ça rejoint d'ailleurs même la question de Bizimana à Gisenyi, là c'est au Rwanda, qui dit pourquoi beaucoup de médecins fument au moment où ils savent que ça prédispose au cancer.
Oui, je viens de répondre à cette question, mais je dois vous dire, j'ai eu une histoire où dans un service de pneumologie, il y a un médecin qui est allé faire sa spécialisation et il fumait. C'était un Congolais. Et alors, le professeur là lui a dit, alors, si je constate que vous continuez à fumer, je vous passe de mon service. Parce que, donc, vous ne suivez pas les instructions du service. Donc, en réalité, les médecins ne doivent pas fumer. Mais comme ce sont des hommes avec des sentiments, les médecins le disent aussi, comme les auditeurs, s'il y a cette histoire-là, c'est pour les autres, hein, parfois ce n'est pas pour moi.
Oui, alors, docteur, on a encore une dernière réaction.
On va terminer par là, d'ailleurs.
Oui, certaines bouches disent que le poison occasionne cette maladie, c'est vrai.
Le poison, j'en connais pas. Le poison, c'est une intoxication, et le poison, en principe, doit aller dans le sens... d'intoxiquer la cellule et de tuer la cellule. Mais le poison ne va pas dans le sens de la multiplication de la cellule. Non, pas le poison.
Pas le poison. Docteur Mancoy, on va peut-être conclure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment, peut-être qu'ils sont restés à leur sauf. Juste pour une précision, qu'est-ce que vous allez dire à l'auditeur en ce qui concerne le cancer, hein? Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une maladie qu'ils ne peuvent jamais attraper, mais tout à l'heure on l'a dit, même l'environnement peut vous prédisposer à attraper le cancer.
Oui, effectivement, l'environnement, il y a même chez nous, dans le service médical, il y a... les agents qui travaillent dans le service de l'imagerie médicale, il y a les rayons X qui exposent aussi au cancer. Vous voyez les albinos, c'est seulement les rayons ultraviolets du soleil qui provoquent le cancer de la peau chez eux. Et il y a la cigarette, il y a l'alcool.
Et la pollution?
Il y a la pollution, mais le fumé, nous les avons tout le temps. Vous aviez même appris dans une étude de recherche sur les légumes dans, comment on appelle ça, les maraîchers à côté des grandes baisses. On a trouvé le plan dans nos légumes. Donc, c'est une intoxication. C'est ça la pollution. Mais ce que nous devons dire, pour le moment maintenant peut bien prévenir les cancers du sein. Nous avons des services d'échographie qui fonctionnent et nous avons aussi des bons échographes. C'est ce qui fait vraiment faire l'affaire. Et je crois maintenant à l'hôpital général de Kinshasa, on vient d'installer
la mammographie. Vous assistez beaucoup plus sur le cancer de sein que de l'utérus, hein, docteur?
Parce que si je me refais bien l'idée de malade, il y a plus de femmes qui viennent avec les cancers de sein que les autres cancers.
Mm.
Oui. Alors, pour les hommes, nous sommes des hommes, quand nous atteignons. Nous dépassons les 50 ans et tout ça. Les gens doivent faire l'échographie de la prostate. C'est aussi facile.
Les hommes aussi sont prédisposés?
Oui, oui, les hommes.
Les hommes.
Ceux qui sont prédisposés sont les cancers de la prostate. Vous commencez par un adénome et puis à la fin, ça s'est cancéré.
Mm.
Mais quand on fait l'échographie à temps, on doit découvrir que vous avez l'adénome, on enlève et puis vous allez vivre tranquillement.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à cela, docteur, c'est tous les hommes qui nous suivent. Mm. Comment savoir, par exemple, qu'ils sont prédisposés à cela? Est-ce que parce qu'ils sont trop actifs plutôt, est-ce que parce qu'ils boivent trop ou ils fument trop? Comment est-ce qu'ils peuvent attraper le cancer de prostate?
Je parle ici, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ceux qui ont une activité sexuelle très élevée, je ne pense pas. Je pense seulement à la prédisposition, parce qu'il y a des gens qui ont une activité sexuelle très élevée qui n'en font pas. Donc, n'incriminons pas cela, mais c'est que l'homme doit savoir quand je le passe, le 50. Je dois faire l'échographie et assez régulièrement.
Juste une précision, à l'hôpital général, au pavillon 9, il y a beaucoup de cas hein, de cancer de prostate.
Hein. Oui, mais c'est l'âge, hein, vous voyez.
Oui.
C'est l'âge, c'est ça.
Merci beaucoup, docteur Mancoy, pour toutes ces précisions. Docteur Christian Béa est fini aujourd'hui. l'occasion de cette journée, nous pensons qu'au niveau du ministère de la Santé, vous activez réellement pour que le programme puisse être adopté. Hein. C'est ça la bonne nouvelle.
Tout à fait. Mais disons que ce sera plutôt dans les jours à venir qu'on va pouvoir organiser une rencontre de plaidoyer. Quoi.
Mmh. Ouais. Alors pour cette journée, votre mot de la fin, ce serait lequel?
Bon, je voulais quand même rassurer un peu la population, pour qu'ils sachent que, bon, au niveau du ministère, on s'attelle pour organiser la lutte contre le cancer, entre autres, et les maladies non transmissibles en général. Pour le moment, on a une politique qui est déjà prête. Il y a le plan stratégique qui est prêt. Je crois avec les deux éléments, on pourra arriver à faire un bon plaidoyer.
À faire assurer prochainement. Merci beaucoup à nos deux invités d'avoir été là et d'avoir surtout répondu aux questions des auditeurs. Nous vous retrouverons prochainement pour d'autres compléments d'information. À la prochaine.